C'est un petit garçon qui est né le 12 juillet 1929 à Prague, qui grandit plutôt dans une famille aisée, à ce qu'on en sait aujourd'hui, mais qui est placé en 1938 dans l'orphelinat juif de Prague par sa mère. En fait, ses parents sont séparés à ce moment-là. On ne sait pas exactement pourquoi il est placé là, mais il va y rester jusqu'en octobre 1942. Date à laquelle il est déporté au ghetto de Theresienstadt, Térésine occupée par les nazis. De là, il va rester quelques temps, et puis il va partir pour Birkenau en Pologne en décembre 1943, où il va rester et survivre là-bas encore 6 mois avant d'être assassiné la veille ou le jour de ses 15 ans. La date n'est pas tout à fait certifiée, puisque l'extermination de son contingent s'est déroulée sur 2 nuits. Donc il disparaît à Birkenau en juillet 1944, à l'âge de 15 ans. Donc.
Gilles, c'est un petit garçon, mais en fait, c'est plutôt un adolescent. En fait, il est à la transition entre le jeune garçon et l'adolescence, hein.
Oui, tout à fait. En fait, là, j'ai donné vraiment les jalons, les dates de sa toute petite existence, donc de 15 ans. En réalité, quand on lit ces textes, ce formidable héritage qu'il nous a laissé, qui nous a légué presque, ben on s'aperçoit qu'en fait il est bien plus âgé que ce dont il a l'air. En fait, c'est presque un adulte prisonnier dans un corps d'enfant. Il écrit des poèmes d'une très grande maturité littéraire, stylistique et spirituelle aussi. On se rend compte que petit à petit, il se réfugie, se construit hein, tout un monde poétique par l'écriture, de manière assez personnel, assez individualiste peut-être, et en même temps il participe aussi à une grande aventure collective à Theresienstadt, à l'intérieur de la chambre et une du ghetto, puisqu'il rejoint une chambrée d'enfants d'une quarantaine de garçons tchèques comme lui, à peu près du même âge, et qui vont constituer une république imaginaire, la République de Schkid. Cette république, oui, ce régime poétique, littéraire, sportif, incroyable, qui va publier pendant 2 ans un journal hebdomadaire, qu'elle contribuera grandement à Nous Aschaffenbourg.
Ce journal s'appelle Vadem, on va en reparler. Vadem, d'une certaine manière, c'est nous menons, en fait. Hein. C'est avec l'idée de mener, d'aller de l'avant, en fait. Vous parlez de cette chambrée, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce que les enfants étaient, ou les jeunes, les jeunes gens, en fait, étaient regroupés comme ça en différentes chambrées. Vous dites c'est la chambrée une et chacun avait son éducateur. Et la particularité de cette chambrée une, c'est que cet éducateur avait des idées, on va dire, socialistes, même communistes, hein, on va dire, et qui va en fait proposer à ces jeunes gens d'être en fait en autogestion d'une certaine façon, de créer une espèce de commune en fait à l'intérieur de cette chambrée.
Oui, c'est exactement ça. Walter Eisinger, l'éducateur qui s'occupe des garçons avec son bras droit, Pépex Tiasny, lui va. En fait, on se rend un peu compte qu'ils se rendent eux-mêmes compte qu'ils sont débordés par la gestion du groupe. 40 garçons, 40 adolescents turbulents, c'est compliqué à gérer. Et donc, ils vont instaurer l'autogestion, en disant aux garçons, finalement, vous allez vous débrouiller vous-même, vous allez vous-même définir les règles de la chambrée. Nous, on est des membres de la chambrée à part entière, comme vous. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on a des droits spécifiques. Walter Eisinger va rester d'ailleurs habiter dans la chambrée, alors qu'il pourrait habiter ailleurs en tant que membre de l'administration du ghetto. Et petit à petit se met en place un véritable régime, en tout cas une chambrée avec un règlement qui est créé par les garçons eux-mêmes, avec des comités, effectivement, comme une petite république socialiste soviétique ou une commune. C'est quand même plus libertaire que soviétique, en fait. On a des comités, alors le comité chargé du ravitaillement, le comité chargé des ménages, le comité chargé de l'ordre et de la police, et puis il y a un comité de rédaction qui est chargé de doter ce régime, cette république, d'un journal, le journal Vedem, qui donc doit sortir chaque semaine au cours d'assemblées qui ont lieu le vendredi soir. Donc évidemment, ça renvoie aussi au rituel du Shabbat chez les Juifs, mais là, c'est une sorte de Shabbat laïque où les garçons en fait vont échanger autour du magazine. C'est vraiment le magazine qui est central et on lit les publications, on en discute, on les débat et on envisage la suite du sommaire. Mais c'est aussi l'occasion, évidemment, de faire le point sur tout un tas d'éléments constitutifs de la vie en communauté, en collectivité, dans cette chambrée.
Alors justement, ce journal Vedem, qui paraît pendant 2 ans hein, à peu près, si je ne me trompe pas, de quoi est-il constitué hein? Je sais qu'il y a des poèmes qui sont publiés, mais de quoi parle-t-il de la vie à Theresienstadt, est-ce qu'il y a de la fiction, par exemple, des dessins? Comment est-ce qu'on pourrait un petit peu le décrire, voilà, puisqu'on ne peut pas le voir comme ça à la radio?
Alors le corpus de Vedem, donc qui est conservé dans les archives du mémorial de Térésine aujourd'hui, c'est à peu près 800 pages qui sont entreposées dans un grand carton, une sorte de grande boîte à chaussures. Dans ces 800 pages, alors moi je parle pas de tchèque, mais je rêverais d'apprendre le tchèque juste pour pouvoir lire Vedem intégralement dans sa langue originale, parce que c'est un journal qui se constitue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ c'est vraiment 4 feuilles mal assemblées, un peu déchirées, abîmées, enfin, qui sont abîmés aujourd'hui, mais qui se sont abîmés évidemment avec le temps, tapés à la machine à écrire, parce qu'au départ, on est dans l'ancienne école de la ville, donc les enfants peuvent récupérer du matériel, cette fameuse machine à écrire, qui finira par s'épuiser, puisqu'ils ne peuvent pas remplacer l'encre, et donc ils continueront à la main. Mais dans ce journal, on trouve vraiment plein, plein de choses. Alors on trouve de la poésie, notamment les fameux poèmes de Hanouch Aschenbourg, on trouve beaucoup de dessins. En tout cas, au début, il y a pas mal d'illustrations en couleur. Le rédacteur en chef de Vedem, Peter Ginz, était arrivé au ghetto avec sa boîte d'aquarelle. Et donc, on déduit que c'est avec cet outil qu'ils vont illustrer tout ça. On trouve des chroniques de la vie du ghetto, donc des petits reportages, notamment un article qui décrit le fonctionnement des fours crématoires du ghetto. C'est tout à fait stupéfiant, avec un schéma technique illustrant le fonctionnement de ces fours. On a des nouvelles, donc de la fiction, des nouvelles policières, des enquêtes, des choses comme ça, et puis des éditos, notamment de Hanouch Aschenbourg, et ça c'est quelque chose qui m'avait échappé à la première lecture traduite du magazine, mais des éditos des sortes d'essais qui s'intéressent à la philosophie, à la littérature, à l'art, à la question juive entre guillemets, à la problématique de la création d'un État national juif, idée que Hanouch Aschenbourg trouve pas si intéressante que ça, en tout cas problématique, parce que le foyer national juif qui doit être créé, ben en fait, a priori, sera créé sur une terre où il y a déjà un autre foyer national arabe, palestinien. Et donc, Hanouch Aschenbourg écrit ça en décembre 43, juste avant sa déportation. Donc voilà, on voit que ça part un peu dans tous les sens et que le journal se constitue. Et puis, j'ai oublié de dire, il y a aussi des interviews d'autres artistes adultes cette fois que la République de Chkid, donc les garçons de la chambre et une du ghetto, invitent lors des réunions du vendredi, où vont interviewer d'abord et puis invitent ensuite pour débattre du contenu de l'interview, etc. Donc on voit que c'est vraiment le cœur de la chambrée, le cœur vivant, qui est un peu le cœur, ouais, le centre de toute cette vie, parce que c'est une vie très foisonnante, très littéraire, très poétique. Et puis évidemment, il y a des comptes rendus sportifs, puisque le football est un sport très important dans la chambre une, mais dans l'ensemble des foyers de garçons du ghetto. Donc voilà, on débat des matchs aussi, on archive la liste des tournois, qui a gagné, etc. Donc le sport fait aussi intégralement partie du quotidien des garçons.
Ça me permet en fait de reparler un petit peu quand même de la spécificité de ce ghetto hein, de Theresienstadt, qui est en fait dans une ville existante, puisque c'était en fait une forteresse de l'époque de Marie-Thérèse, d'où son nom, donc du XVIIIe siècle. C'était une ville réelle, mais une ville de garnison en effet autrefois. On sait très bien qu'évidemment, dans de nombreux camps de concentration, il y a eu de l'art, il y a eu de la création, etc. Mais on a l'impression qu'en effet, pour le coup, Theresienstadt a concentré une grande part de l'intelligentsia tchèque, juive, et pas que juive d'ailleurs pour le coup, parce que d'autres aussi ont été envoyés à Theresienstadt. Et en effet, ce vivier aussi de jeunes gens, voilà, qui vont être très créatifs sur place. C'est quelque chose d'assez unique peut-être dans l'univers concentrationnaire du Reich finalement.
En tout cas, c'est quelque chose de très spécifique aussi parce que une des fonctions de ce ghetto de Theresienstadt, c'est de faire fonctionner, de servir la propagande nazie. Les nazis présentent ça comme un ghetto final, c'est-à-dire un lieu d'où les juifs ne seront pas transférés. Ils le présentent aussi comme un ghetto pour seniors et finalement comme une ville autogérée par les juifs. Et donc on voit là, en tout cas, une articulation assez intéressante entre la prétendue autogestion du ghetto. Qui est en effet administré par des notables juifs, mais qui sont soumis directement et très violemment au pouvoir, à la violence des nazis, et un reflet avec l'autogestion réelle des garçons de la chambre une, qui se dotent vraiment d'un règlement et qui inventent une liberté à l'intérieur des murs du ghetto. Mais oui, vous l'avez dit, c'est un endroit qui concentre plusieurs fonctions, fonction d'enfermement, fonction de déportation ensuite vers les centres de mise à mort, et en particulier Birkenau, fonction de mensonge par la propagande, puisqu'il s'agit de faire croire aux Juifs d'abord, et puis ensuite à ce qu'on appelle l'opinion internationale, à d'autres, aux autres pays, notamment les pays neutres, la Suisse, etc., qu'il s'agit en fait d'une ville normale dans laquelle finalement vivent des Juifs entre eux, dans leur propre administration. Et c'est cette concentration de fonctions qui fait que se retrouvent dans ce ghetto, notamment, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens aussi modestes qui ne sont pas forcément de grands noms de l'université tchécoslovaque, mais en tout cas, on va retrouver beaucoup d'artistes qui seront mis à contribution directement par les nazis dans des bureaux de dessin pour vanter les mérites de cette espèce de ville thermale, hein, c'est quasiment présenté comme ça par les nazis. Afin d'attirer, ça fonctionne vraiment comme un piège. Le but, c'est d'éviter à ce moment-là que les juifs du Reich fuient, mais on les invite fortement, alors avec tout un tas de pression évidemment, on leur propose d'acheter des appartements à Térésine avec vue sur le lac, alors qu'il n'y a pas de lac et il n'y a même pas d'appartements, en fait, ce sont des grandes chambrées, de grands dortoirs dans lesquels on va entasser les gens. Mais voilà, donc c'est une fonction assez spécifique. En général, dans l'histoire des ghettos de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt des parties de villes, comme à Varsovie, comme à Cracovie, qu'on va emmurer, dans lesquelles on va concentrer une population qui est beaucoup trop nombreuse pour le type d'habitat. Et c'est aussi ce qui va se passer à Theresienstadt, sauf que là, c'est toute la ville qui est réquisitionnée dès novembre 41 par la Gestapo, et c'est dans cette ville qu'on va d'abord exclure les non-juifs, on va les chasser, pour réquisitionner tous les logements possibles, et on va progressivement entasser tous les juifs, d'abord de Tchécoslovaquie, puis ensuite du Reich, d'Allemagne, d'Autriche, etc. On va entasser là jusqu'à 60 000 habitants en même temps pour une ville qui est prévue pour 10 fois moins, pour 6 000 habitants. Donc il y a aussi une concentration, une grande densité de population, mais il y a une spécificité quand même propre à ce ghetto par la présence particulièrement remarquable d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, d'universitaires, de médecins, de rabbins aussi, puisqu'on déporte là des gens assez connus, pour les garder en vie le temps que le monde croit à cette propagande et que la machine infernale du mensonge nazi se mette petit à petit en branle. Mais ça reste un camp où on meurt sur place. Il y a à peu près 30 000 personnes qui vont mourir sur place de malnutrition, de maladies, de vieillesse aussi, puisqu'on déporte beaucoup de personnes âgées. Et d'où partiront des dizaines de milliers de personnes pour la mort dans les chambres à gaz des camps polonais.
Alors, vous êtes déjà l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Le fantôme de Theresienstadt. Là, on parle aujourd'hui pour évoquer votre livre qui s'appelle L'enfant comète, hein, qui sort chez Plon. Pourquoi ce besoin pour vous de revenir à Hanusch Hafenburg? Je disais, Le fantôme de Theresienstadt, c'est le titre de votre documentaire. Est-ce que pour vous, Hanusch, c'est un peu votre fantôme? Enfin, qui vous accompagne d'une certaine manière, et vous avez besoin peut-être de passer justement du visuel à l'écrit.
Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, ça, c'est le côté peut-être un peu spirituel de la chose, c'est-à-dire de croiser un destin comme ça, quasiment inconnu, puisque très peu de gens connaissent Hanusch. Il a été approché ici ou là par des traducteurs, par des historiens qui travaillaient sur la question des enfants dans la Shoah, mais voilà, comme vraiment un petit fragment d'une histoire disparue. Le film, en fait, c'est l'idée du film du fantôme de Theresienstadt s'est faite petit à petit à force de rencontrer les survivants. Et c'est vraiment un film qui raconte l'histoire à travers les témoins, par la parole des survivants. Pour moi, c'était au départ impensable de faire autre chose que ça, c'est-à-dire recueillir cette histoire par le témoignage des survivants. Donc pour ça, avec Claire Auduit qui raconte l'histoire dans le film et qui est la fondatrice des éditions Rodéo Dames, qui coédite L'Enfant Comète, elle a fait une thèse sur le théâtre clandestin dans les camps nazis, et c'est à travers cette recherche-là universitaire qu'elle a découvert l'histoire de Hanusch Aschenbourg, alors qu'il lui est pas tombé dessus comme ça. C'est-à-dire le manuscrit de la pièce On a besoin d'un fantôme, effectivement, elle a découvert par hasard, par un joyeux hasard dans les archives du ghetto. Et ensuite, il a fallu trouver des témoins pour raconter un peu cette histoire. Et donc là, ensemble, on a fait deux fois le tour du monde pour aller enregistrer et sauver cette mémoire-là. On est allé à Miami, à Toronto, à Boston, à Prague évidemment, en Israël, on est passé par Paris, enfin voilà, on a rencontré ces témoins, on les a enregistrés, et l'idée du film s'est faite là, et finalement, c'est, comme je disais, un film de témoignage des survivants. Une fois que j'ai fait ce film, qui dure 52 minutes, c'est un format plutôt pour la télévision, c'est assez frustrant parce que même si on suit l'histoire de Hanouch, eh ben on fait finalement qu'effleurer certaines choses. Je pense que bout à bout, il doit y avoir peut-être 3 minutes de poésie, de poème, dit par quelqu'un qui lit en voix off comme ça les poèmes. Et c'est très frustrant de faire l'histoire d'un poète en gardant si peu de poésie. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit un film expérimental dans lequel il y ait 3 heures de poèmes voilà,
Sûr.
et où voilà, décroche un petit peu. Donc c'est cette frustration-là qui m'a donné envie de continuer à enquêter, à travailler. Il y a eu, le film est sorti en 2019, il y a eu le confinement en France à ce moment-là, enfin, dans plein d'autres pays, ce qui m'a donné le temps de refeuilleter VDEM, puisque il y a tout un projet pédagogique qui a permis de scanner les archives de VDEM. Et même si je ne parle pas de tchèque, j'ai pu me replonger dans des résumés en anglais de chaque article. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais peut-être passé un peu vite sur le corpus, donc encore une fois, du 800 pages. J'ai trouvé d'autres textes de Hanouch Aschenbourg dans VDEM. Et donc, pendant que j'écrivais le livre, j'ai eu aussi envie d'explorer un peu plus ce qu'il avait écrit, qui n'était pas de la poésie. Il y a une nouvelle, il y a plein d'essais, plein de petits éditos. Et donc, c'est continuer à explorer ce personnage par d'autres moyens. C'est un petit peu ce qui a présidé à la naissance de ce livre, qui est aussi un livre personnel. Je dirais pas plus personnel que le film, mais simplement dans le film, ma voix, c'est le montage de toutes ces voix, de toutes ces archives. Il y a beaucoup de. Voilà, il y a la poésie, il y a la voix des survivants, il y a des images du ghetto, il y a des images dessinées. Bref, il y a tout un tas de choses qu'il a fallu monter avec le monteur du film, Aurélien Magnat. Mais finalement, à part ce montage-là, moi, je me tenais très à distance du personnage. Et donc, le
Attention.
film a permis que je fasse le livre, mais le livre essaye d'instaurer un rapport plus personnel, peut-être plus profond aussi, avec Hanouch Aschenbourg.
Plus personnel, plus profond, mais en effet, il y a une forme de récit qui est particulière, hein, puisque vous parlez en effet à la troisième personne, mais en même temps, on voit intervenir votre compagne ou votre épouse, je ne suis pas
Oui.
sûre. On la voit, on la lit, en train de faire ses recherches justement à Térésine. Après, il y a aussi des extraits. Enfin, c'est en effet, c'est pas un roman, ça c'est très clair. C'est un récit un peu à plusieurs voix d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Mais alors, ça, ça s'est fait en le faisant. C'est-à-dire que j'ai pas décidé, tiens, je vais écrire comme un roman, mais il y aurait pas de fiction. Et puis, en même temps, enfin, ça s'est fait vraiment petit à petit avec le. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué, qui se sont complètement transformées, et puis des choses qui étaient là dès le départ et qui sont restées, comme le fait de s'adresser à Anouche, à la deuxième personne, et en parlant moi à la première personne.
Oui, à la
Et ça,
deuxième, pardon. Oui.
ouais, ça vient arriver. C'est-à-dire que le récit est à la troisième personne. Il se lit comme un roman, mais vous avez bien dit que c'est pas vraiment un roman ou c'est pas un roman, puisque c'est ce qu'on sait de sa vie. Alors, parfois, je m'autorise à mettre un petit peu en scène, mais il y a énormément de notes qui renvoient à plein de sources. Voilà, ça, c'est mon côté un peu enquêteur ou journaliste qui
Journaliste.
renvoie, voilà, aux faits. Mais on le suit dans sa petite existence comme ça, à traverser les mois, les semaines et les courtes années de sa vie.
Ça
Mais
permet aussi
effectivement.
de remplir les blancs, peut-être aussi, puisqu'en effet, un, c'est une courte vie. Deux, comme vous le disiez, il n'y a pas forcément certaines infos manquent. On ne sait pas pourquoi il a été mis dans cet orphelinat. Justement, cette forme de récit permettait un petit peu de combler ces blancs-là.
Ouais, je sais pas si ça permet vraiment de combler les choses. En tout cas, pour moi, c'est une exploration. Enfin, je dis au début du livre que j'ai l'impression de descendre un peu dans une grotte et d'essayer d'éclairer les parois de la grotte à la lumière du récit. Donc, c'est pas vraiment combler, c'est plutôt éclairer et essayer voilà, d'avancer à tâtons dans cette grotte, dans ce qui est enfoui, dans ce qui est obscur. Et le récit, la narration permet d'explorer ça. Donc pour moi, c'est un mode exploratoire plutôt que d'essayer de combler. Mais c'est vrai que les toutes premières versions, là, c'est le côté un peu coulisses. J'avais du mal à me détacher des faits, justement. Et le premier texte était vraiment rempli de peut-être, on ne sait pas si, j'imagine que, voilà. Et ça s'est petit à petit gommé pour assumer une narration avec un personnage. Je ne sais pas si c'est Anoush Aschenbourg tel qu'il a existé. En tout cas, dans ce livre, il y a tout ce que je sais sur lui dans son existence. Et c'est raconté à la manière d'un récit qui permet de le suivre. On ne saura pas exactement ce qu'est devenu son père. On ne saura pas pourquoi exactement sa mère l'a mise à l'orphelinat. Mais le récit permet d'explorer ça et de le suivre jusqu'à la fin. Parce que c'est aussi ce qui m'a. Alors, le film racontait l'histoire jusqu'à la fin. Et pendant le tournage du film, j'ai appris des choses sur la fin de Anoush Aschenbourg. Mais c'est très différent de confier ou de recueillir la parole d'un survivant qui raconte la fin. C'est très différent de le raconter soi-même. Et la dernière partie du livre a été pour moi assez difficile à écrire, puisque j'ai eu l'impression de le refaire mourir, de le tuer une seconde fois pour que le récit aboutisse. Donc finalement, le personnage de Claire Auduit, qui est cette chercheuse qui trouve ces textes-là, mais vraiment par hasard dans un océan d'archives inexplorées quasiment, ça encadre un petit peu le récit. Mais j'ai pas voulu non plus raconter tout le récit comme une enquête,
Bien
même
sûr.
si y a un leitmotiv qui dit je t'ai recherché là, je t'ai cherché à Prague, je t'ai cherché à Miami, à Toronto. Mais finalement, voilà, je voulais pas non plus me mettre en scène en train de fouiller, en train de chercher, etc. Donc Claire sert à ça, à être la figure de la chercheuse. Mais au fond, on reste quand même, il me semble, assez collé à son histoire et on le suit à travers le ghetto d'abord et puis ensuite à Birkenau.
Alors c'est un très beau titre, L'enfant comète. Peut-être est-ce que vous pourriez nous décrypter peut-être pourquoi ce choix?
Au départ, je voulais appeler ce livre, lui donner le titre d'un poème inédit qui nous avait échappé à la première lecture et qui s'appelait La rivière et l'étincelle. Et c'est un très beau poème que j'ai gardé tel quel et qui ouvre le livre, en fait, dans lequel Anouche dit, je résume, hein, je fais un peu l'exégèse, mais qui dit, voilà, nous sommes un peu comme un flambeau qui s'éteint. Mais même plongé dans la rivière, enfin voilà, là, il y a une rivière qui emporte tout, mais même plongé ce flambeau dans la rivière, il restera quand même une étincelle en nous. Donc dès le départ, il y avait l'image du feu ou de la lumière. Moi, c'est vraiment un enfant qui éclaire et que je cherche aussi à mettre en lumière. Il a fallu ensuite trouver un titre peut-être un peu plus évocateur. Et donc j'avais depuis le départ cette envie aussi de parler d'un météore. Il y a une petite comparaison à Rimbaud dans le livre que je pensais assez discrète, mais Plon, l'éditeur, voilà, s'est jeté sur cette métaphore-là en disant, voilà, c'est le Rimbaud du ghetto, voilà, en parlant comme ça. Je ne sais pas si lui se serait comparé à Rimbaud, et puis voilà, c'est deux époques très différentes, deux trajectoires très différentes, mais on dit aussi de Rimbaud que c'était un météore, enfin voilà, une vie poétique très dense, très courte, où il a écrit l'essentiel de son œuvre entre 16 et 20 ans. Là, voilà, on a un auteur qui écrit entre 13 et 15 ans, qui donne tout ce qu'il a, et donc il ne reste que ça. Et donc il y a un peu cette idée voilà, d'un météore, d'une comète qui passe, qui éclaire la nuit, mais qui reste insaisissable malgré tout, et dont on peut juste apercevoir la traîne de lumière comme ça, que sont ses poèmes et ses textes en vérité.
Dernière question. Je le disais, et puis ça ressort évidemment de cette discussion. Donc ça fait très longtemps que vous vivez avec ce destin, le destin de ce jeune garçon, et avec le destin finalement de tous ces enfants de Theresienstadt. C'est important pour vous en fait de continuer à parler de ces destins-là, parce que enfin quand on pense par exemple notamment à l'actualité, vous disiez alors un que vous avez parlé avec des survivants, mais ces survivants disparaissent. Et actuellement, on sent voilà une montée de l'antisémitisme. Un peu partout, notamment en France, mais pas seulement. Est-ce que pour vous, c'est important de continuer justement à finalement faire revivre les destins de ces gens et de ces enfants avec lesquels finalement on peut s'identifier d'une certaine façon?
Oui, bien sûr, ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse, enfin depuis le lycée en fait, à l'histoire du génocide juif, aux autres génocides aussi. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'un génocide, ça commence toujours par un conflit de voisinage en fait. C'est vraiment son voisin, qu'il soit juif, qu'il soit tzigane, qu'il soit tutsi, ça commence là. Et donc c'est comment on en arrive à projeter sur l'autre, sur son voisin, assez de haine pour le tuer systématiquement, ça c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps, question évidemment sans réponse, mais à travers l'histoire on a quand même quelques exemples parlants, donc c'est important, mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais en même temps, assez vite j'ai compris que l'expression devoir de mémoire était un peu stérile, quoi. Elle est un peu creuse, c'est-à-dire Là, j'ai un neveu qui part à Auschwitz. Voilà, il a 16 ans, il va visiter Birkenau. Aller sur les lieux, c'est important, mais ça suffit pas. Enfin, voilà, il y a tout un travail, en fait, derrière qu'il faut mener
Bien
pour
sûr.
raconter, pour comprendre, pour essayer d'expliquer. Il y a des choses qui resteront sans doute incompréhensibles, mais c'est pas grave, il faut le faire. Bien sûr, il y a la fidélité aux témoins. Moi, j'accompagne beaucoup mon film, et j'espère le faire aussi avec le livre, dans les lycées, auprès des plus jeunes, pour raconter cette histoire, pour se passer un petit peu le flambeau aussi de toutes ces lumières-là. Avec Claire Auduit, on s'est toujours intéressé aux outils de résistance, c'est-à-dire pas uniquement percevoir les victimes du génocide uniquement comme des victimes, mais souvent aussi comme des résistants. À ce titre, on peut dire que Anoush Aschenbourg a essayé de résister avec les armes qui étaient les siennes, avec sa force spirituelle, avec sa force littéraire aussi. Toute la chambrée des garçons, des Chkidites, hein, de la République de Chkid, ils ont résisté, ne serait-ce qu'en faisant ce journal Vedem, qui était un journal clandestin, interdit, dangereux. C'est amener aussi d'autres formes de résistance aux plus jeunes, leur montrer que on peut résister par plein de manières différentes. Et puis, évidemment, voilà, ces dernières années, on voit en France, mais dans le monde entier, enfin, aux États-Unis, dans toute l'Europe, en Israël aussi, revenir l'extrême droite au pouvoir, pas seulement à la conquête du pouvoir, mais qui exerce le pouvoir, qui instrumentalise aussi toute cette histoire à des fins qui lui sont propres, avec son propre agenda, qui revient aussi à l'exclusion de l'autre, à un rapport de domination, de prédation. Donc voilà, tout ça. Tous ces éléments font que c'est plus qu'important de parler de ça. Je travaillais sur le livre, à chasser les dernières coquilles, à réajuster des phrases, et puis il y a eu le salut de Elon Musk, où tout le monde, voilà, le monde entier disserte pour savoir si c'est un salut nazi, un salut fasciste, un salut romain, mais les bras m'en tombent. Et moi, j'écris des mails aux derniers survivants que j'ai rencontrés, à Dita Kraus, qui s'inquiète. De voir la bête renaître, en fait. Il y a tout ça derrière aussi. Donc, c'est pas juste passer un flambeau, mais c'est aussi tenir un peu le monstre à distance, quoi. Par pitié pour les survivants. Et voilà, en voyant Musk tendre son bras, je pensais à ces heures d'entretien, à toutes ces archives, à tout ça qui disparaît petit à petit. Alors, on met ça un peu dans la poussière du temps, sous le tapis. Ça, c'est inacceptable pour moi.